Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International, dans notre émission, eh bien, ce café des sports hebdomadaire que vous pouvez suivre non seulement dans votre poste radio, mais aussi si vous avez envie, eh bien, sur le Facebook Live, et vous pouvez nous regarder. Nos invités sont évidemment déjà arrivés, ils sont là et je vous les présente. Habib Bey, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être fidèle au café des sports de Radio Foot International.
De plus en plus,
ouais. N'est-ce pas, hein? À vos côtés, Xavier Barré. Bonjour Xavier.
Bonjour Annie. Oui, je reviens.
Et Rémi Ngono qui lui ne manque jamais le rendez-vous.
Je ne manque jamais, vous savez, Xavier Barré, ça dépend. Il a quelques apparitions épileptiques et quand ça ne va pas bien pour ses clubs, il disparaît et après il réapparaît. Voilà. Ouais,
mais là, on va parler de Mourinho, donc je ne sais pas pourquoi je me sens inspiré aujourd'hui.
Ah oui, mais.
Ça inspire toujours Mourinho.
Ne t'en fais pas.
Le ref est là toujours pour essayer de contrebalancer tout ça. Bonjour Alejandro
Valente. On va essayer, je suis à côté de Rémi. Donc c'est pas très confortable.
Mais ça va, il y a les caméras pour témoins, alors il pourra pas vous tendre des pièges. Dans les débats du jour, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, est-elle une compétition menacée? L'horizon est troublé, aucune visibilité sur la prochaine édition majeure du football africain. Quand et où se déroulera la CAN 2021? Le comité exécutif de la CAF évoque vaguement un pays hôte. Et il semble que l'institution soit désormais sous tutelle, mais aussi sous le diktat de la FIFA. Les Citizens lancés dans une séquence décisive pour défendre leur titre de champion d'Angleterre. Distancés par Liverpool, Manchester City retrouve ces prochaines semaines ses adversaires directs, à commencer par les Blues de Chelsea, surprenant troisième de Premier League. Dans un championnat où José Mourinho is back, on vous en a parlé cette semaine. Ah oui, ça. Rémi is back, José Mourinho is back, tout le monde revient. A-t-il changé l'ancien Special One en changeant en Manchester United pour Tottenham? Il semblerait que non et nous vous dirons pourquoi. Le millième but de Pelé, 50 ans plus tard, qui pour faire de l'ombre au roi du football, oreille Pelé? Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont évidemment dans son sillage. Radio Foot, le café des sports, les débats sont ouverts. La CAN est-elle en danger, menacée par les intérêts du football mondial que la FIFA réorganise un peu à marche forcée sous la présidence de Gianni Infantino? La dernière édition réunion du COMEX ne lève pas tous les doutes, en tout cas c'est ce qu'on croit comprendre, et on est tenté de se demander si la CAF, déjà sous tutelle de la FIFA, vous le savez avec la présence de Fatma Samoura, si cette CAF n'a plus véritablement les coudées franches. On attendait effectivement des éclaircissements de la Confédération africaine pour cette première réunion depuis la finale qui a sacré l'Algérie, la finale Algérie-Sénégal. Éclaircissement, alors on en a eu en ce qui concerne le CHAN, Alejandro Valente, on a les dates de la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations avec, on le sait, les joueurs africains qui jouent localement.
Oui, effectivement, il y a quelques jours sur le site de la CAF, effectivement, le CHAN était annoncé au mois de janvier, comme c'était prévu initialement. Les autorités camerounaises, la FECAFOOT, avaient indiqué depuis plusieurs semaines que ce serait plutôt au mois d'avril. Et la CAF, qui semble avoir attendu le retour d'une mission d'inspection avant de se prononcer définitivement, a validé donc ce calendrier. Et le CHAN aura donc lieu au mois d'avril, ce qui va obliger à modifier un petit peu le calendrier des compétitions africaines, et notamment la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, afin d'éviter qu'elles se chevauchent avec ce CHAN qu'on veut, à qui on veut donner de plus en plus d'importance au sein de la Confédération africaine de football.
Rémi, le mois d'avril au Cameroun, c'est un bon moment pour organiser une compétition et dans des stades qui sont déjà fin prêts.
Déjà, les stades ne sont pas fin prêts.
Ceux qui ont été choisis, sélectionnés, c'est pas les mêmes que ceux de la CAN.
Oui, j'ai dit ils ne sont pas fin prêts parce que d'ailleurs vous voyez que la dernière fois, il y avait Choupo-Moting qui se plaignait déjà du gazon de la pelouse du stade Amadou Ahidjo. Donc, quand on essaie de dire que les stades sont enfin prêts, je n'y crois pas, parce que de toutes les façons, comme je le dis, le Cameroun devait organiser une CAN 2019 où le chef d'État avait dit le Cameroun sera prêt le jour dit, et qu'on soit aujourd'hui en fin 2019 et qu'on soit obligé de renvoyer Lushan parce que justement les stades ne sont pas prêts, parce que si les stades étaient prêts, Lushan allait avoir lieu. Mais le problème c'est que les stades, les infrastructures et beaucoup de choses n'étant pas prêtes, on se dit ça pourrait s'achever. Maintenant, est-ce que c'est la bonne période? Exactement comme vous le dites, aujourd'hui le football camerounais, toutes les compétitions sont au creux de la vague, donc on ne peut pas dire... Quand est-ce que c'est la bonne période? D'autant plus aussi qu'il faut savoir que le calendrier politique...
Non, je parlais plutôt, je pensais au climat, en fait, parce qu'on avait beaucoup dit que les cannes
vous
en hiver, c'était
Rémi
mieux.
Vous transformez Monsieur Météo?
Oui, mais...
Il pourrait encore se tromper. Non, hein.
La météo est là, mais sauf que il faut aussi mettre la météo politique. Parce que, justement, il faut savoir qu'en cette période, il y aura des élections qui risqueraient d'être très, très, très dangereuses au Cameroun, parce que ça commence déjà. Et alors, lorsque le calendrier politique semble déjà assez enflammé et qu'on vient de mettre une compétition footballistique, j'ai dit, eh bien, la CAF peut-être est en train de faire un bricolage, voire un saupoudrage actif, beaucoup d'improvisation, et tout ce qui est improvisé ne peut pas être justement quelque chose de bien organisé.
Rémi, mais est-ce que ça vous inquiète quand la Confédération africaine de football parle clairement et donne les dates du CHAN pour donc l'année prochaine, mais par contre... Alors que depuis le fameux glissement opéré, on était sûr que ça serait le Cameroun qui organiserait la CAN en 2021, ben maintenant on parle de pays hôtes.
Oui, parce que c'est comme ça que ça avait commencé, toujours avec une langue fourchue, glissante et toujours sur une pente descendante et savonneuse. On met toujours le Cameroun au zénith et par la suite, ça commence à descendre par petit escalier. Vous savez très bien que pour la CAN 2019, en octobre, juste avant l'élection présidentielle, eh bien, Ahmad Ahmad avait, contre vent marée, raz de marée, affirmé péremptoirement, voire se bombait le torse, que le Cameroun va organiser la CAN 2019. Mais par la suite, on a commencé à changer le langage jusqu'à ce que le Cameroun n'a pas organisé
la CAN. Ça a été décidé
donc,
en janvier dernier.
Aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder, par exemple, la dernière mission d'inspection, eh bien, on dit, nous sommes venus comme des soldats, mais sauf que cette mission d'inspection arrive sur quel stade? Sur le stade Paul Biya, dont je devrais rappeler, la première pierre a été posée en 2008, nous sommes en 2019, et les travaux sont arrêtés, et généralement, quand la mission arrive, on appelle des gens, on dit, allez, venez commencer des travaux. Donc, rien n'est sûr pour l'instant, dans la mesure où, que ce soit Bafoussam, que ce soit alors aussi les infrastructures qui doivent accompagner cela, c'est-à-dire routières et tout le reste, c'est très 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 délicat.
Habib, on a l'impression surtout qu'il y a un calendrier qui est de plus en plus chargé. Alors ça, évidemment, les clubs le savent au quotidien, mais il y a ce mondial des clubs qui existait auparavant, qui a été refondu, réorganisé, qui aura lieu en 2021, la CAF change la période de CAN en se disant, bon, alors déjà, on avait vu que cette année, en 2019, il y avait eu la Coupe du Monde féminine, en même temps que la CAN, ça se chevauchait, c'était un peu moyen, même les femmes avaient réclamé hein, du fait que le jour de leur finale, à elles, il se passait autre chose ailleurs. Et là, on se retrouve avec cette compétition, donc le futur mondial des clubs à 24 clubs en juin-juillet. Là où aurait dû avoir lieu la CAN, qui a été déplacée en été pour pas déranger les clubs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous comprenez?
Ça veut dire qu'on privilégie encore une fois l'aspect économique, puisqu'on sait qu'un mondial des clubs, on sait qu'une Ligue des Nations, on sait que toutes ces compétitions qui ont été créées, c'est pour générer de l'argent.
Ah, alors pour la FIFA.
Pour la FIFA. Et pour les organismes qui justement organisent ces compétitions. Ce qui est important de dire, c'est est-ce qu'aujourd'hui une CAN génère autant d'argent qu'une Ligue des Nations, qu'un Mondial des Clubs? Tout le monde sait que non. Donc à partir de là, on va sacrifier, en quelque sorte, la compétition qui rapporte le moins d'argent. Que ça soit à la CAF, que ça soit à la FIFA, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui la CAF est sous tutelle de la FIFA, parce que FIFA est l'organisme majeur aujourd'hui qui gère le football mondial dans tous ses aspects, et que bien sûr que tant que
la CAF a perdu du pouvoir.
Oui, je pense que la CAF a très peu de pouvoir en fait. Je pense que dans ces décisions-là, en tout cas, la CAF a très peu de pouvoir. Et en quelque sorte, on pourrait considérer que c'est tout à fait logique, puisqu'on est dans un football qui avance et on est dans un football où la donnée économique est plus importante que tout. Vous le voyez.
Le foot africain n'avance pas.
C'est pas qu'il avance pas, c'est que le foot africain a ses limites dans le fait de générer des revenus. Elle a ses limites aussi, on le voit dans les stades. Lorsqu'on regarde la Coupe d'Afrique des Nations, il faut être très réaliste. Il n'y avait personne dans les stades, à part lorsque l'Égypte a joué, et un petit peu après derrière, parce qu'on a laissé rentrer les gens gratuitement pour essayer de mettre du monde dans les stades. Mais,
Et là, par exemple, aujourd'hui, on a Patrice Neveu qui s'énerve du côté du Gabon, où il a élu résidence puisqu'il est sélectionneur des Panthères. Et le championnat qui devait commencer ce week-end ne commence pas. Donc, effectivement, il y a une inertie dans les championnats aussi locaux. Xavier, comment vous voyez ça ? Est-ce qu'il y a une mainmise finalement pour réorganiser un calendrier à l'échelle mondiale ?
Totalement. Et en fait, c'est dans ce cadre-là qu'il faut replacer ce débat. Parce que la guerre, entre guillemets, entre l'Europe et la FIFA, elle n'est pas nouvelle. Elle existait déjà dans les années 90. La FIFA avait un peu gagné par chaos. Mais il y avait toujours, pour faire simple, l'économie des équipes nationales est contrôlée par la FIFA avec la Coupe du Monde, qui génère énormément d'argent. Et l'économie des clubs est contrôlée plus ou moins, est co-contrôlée par les grands clubs européens et l'UEFA, avec la Ligue des Champions, qui génère énormément d'argent. Donc, la FIFA, qui veut contrôler tout, vise aussi les compétitions interclubs. C'est pas nouveau qu'il veuille créer un mondial des clubs. La première édition, il l'avait créé en 2000. C'était au Brésil, vous y étiez d'ailleurs, Annie. Et ça avait été un four total, puisque ça avait été une finale Corinthians
qui avait gagné,
Vasco, je crois. 0-0 tir au but. Manchester United avait été invité à y aller par la fédération anglaise, parce que les Anglais étaient candidat à l'organisation de la Coupe du Monde, et la Manchester United avait dû renoncer à disputer la Cup, la plus vieille compétition du monde, pour faire l'ambassadeur, et ils avaient été éliminés dès le premier tour de la compétition.
Et ils n'ont pas organisé la Coupe du Monde.
Donc ça avait été un four total, et la deuxième édition qui devait avoir lieu en Espagne l'année d'après avait été purement et simplement annulée. Donc du coup, la FIFA avait rangé sa copie, et entre-temps, le nouveau patron de la FIFA, donc Gianni Infantino, lui sait parfaitement comment fonctionnent les compétitions interclubs, puisqu'il a été secrétaire général de l'UEFA pendant de nombreuses années, et donc sait très bien comment fonctionne la Ligue des Champions. Donc le but du jeu, c'est de récupérer une partie de cette manne financière des compétitions interclubs. Ils évaluent le budget à 4 milliards de dollars quand même, de la Coupe du Monde des clubs. Maintenant, il faut rappeler que le budget de la Ligue des Champions, c'est 2 milliards et demi de dollars, mais 70% de ce budget est assuré par les droits télé. Donc, est-ce qu'il y aura le marché suffisant au niveau mondial pour venir créer cette compétition ? Moi, j'ai encore des doutes là-dessus. C'est pour ça que pour le moment, on spécule sur une compétition qui n'existe pas.
Alejandro, surtout, ce qu'on se dit, c'est que cette CAN à 24, décidée à 24, est placée à l'été. Maintenant, pratiquement, elle est aussi dérangeante, mais pour d'autres raisons qu'auparavant. Là, c'est moins les clubs et plus les institutions. Est-ce qu'on s'embarque vers une CAN tous les 4 ans ?
En tout cas, ce serait l'aboutissement logique de tout ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire la FIFA poursuit effectivement une réorganisation du calendrier international dans lequel les compétitions continentales doivent avoir lieu tous les 4 ans. C'est le cas en Europe, ça va être le cas en Amérique du Sud après de multiples discussions, etc. Et l'Afrique, forcément, et surtout en passant en format 24 équipes, doit aussi s'y plier. Alors l'idée, me semble-t-il, qui sous-tend un peu cette réorganisation, consisterait à alterner tous les 2 ans un CHAN et une CAN, sachant que le CHAN réunit uniquement des footballeurs qui évoluent en Afrique et qui est une compétition aujourd'hui qui vit à l'ombre de la CAN, mais qui pourrait éventuellement, en tout cas c'est l'espoir de la FIFA qui aujourd'hui intervient beaucoup dans les affaires de la CAF, pourrait gagner en importance si la CAN passe à se dérouler tous les 4 ans.
C'est ce qui se passe en Asie.
Non. Je crois que là, la FIFA, comme malheureusement l'Afrique, est en train de coloniser une fois de plus la CAF, parce que on ne voit pas ça ailleurs. Donc, première des choses, nous sommes sous un système colonial indicta. Parce que, première des choses, quand on essaie de regarder ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une CAN qui a été arrêtée il y a bien longtemps, et vous venez, vous ajoutez une compétition juste à cette période-là et vous continuez.
Oui, mais Rémi, la CAF ne se défend pas actuellement, c'est ça qui est sidérant.
Elle ne peut pas se défendre dans la mesure où nous avons un pion qui a été injecté par la FIFA, ce qui signifie qu'aujourd'hui, la CAF elle-même, elle est régentée par une femme qui, on ne sait pas d'où elle sort dans les affaires
elle
du football.
Elle a été chapeautée,
mais attendez, c'est exactement ce qui se passe dans des colonies. C'est-à-dire qu'on vous met un nègre là et finalement, lui, il sert l'Occident. Donc, actuellement,
c'est facile, on peut dire... c'est facile de sortir ce genre de discours.
Oui, oui, mais attendez, on le dit, on le fait, dans la mesure où elle n'a pas été élue par un Africain. Même si elle est africaine, elle n'a jamais été élue quelque part pour qu'elle soit là, là où, si dans un poste où on est élu.
Si la CAF fonctionnait mieux,
on aurait besoin d'intervenir. Si la CAF fonctionnait mieux, je dis bien que si la CAF fonctionnait mieux et si la CAF fonctionnait mal, on aurait dû procéder à une autre élection, pas de venir avec quelqu'un qui n'a jamais été élu. C'est à peu près comme si on vous dit qu'un chef d'État ne fonctionne pas bien, alors on nomme quelqu'un d'autre qui vient d'un pays ailleurs, on l'installe là, c'est un dictat. Deuxième des choses aujourd'hui, quand on me dit que la compétition africaine, la CAN ne génère pas de bénéfices, j'ai dit, c'est archi faux, dans la mesure où, regardez la dernière CAN, rien que le champion, le vice-champion et tous les autres, ce qu'ils devaient toucher, c'était doublé. Quand vous regardez que depuis 2016, Total a pris, par exemple, le sponsor de la CAN aujourd'hui, juste pour 8 ans. On essaie de voir Umbro qui est venu et il y a trop d'annonceurs qui viennent. Regardez la finale, combien est-ce que ça fait en France? C'est-à-dire que vous aviez à TMC des Audimat qui atteignaient 2 700 000.
C'est l'affiche, c'est l'affiche.
Vous vous rendez compte? Et deuxième des choses, il faut savoir que lorsqu'on parle des sponsors et quand on parle des médias, on regarde le potentiel, combien de gens peuvent être atteints. L'Afrique, c'est bientôt 1 milliard d'habitants. 1 milliard. Ce qui signifie que lorsqu'un annonceur veut faire sa promotion, eh bien, il sait très bien que je m'en vais chez ses consommateurs. Comment est-ce qu'on peut donc couper le cordon ombilical pour que aujourd'hui la CAF soit encore capable, enfin, incapable de pouvoir s'autofinancer pour venir juste mendier auprès de la CAF parce que sa compétition phare subit une concurrence déloyale. J'ai dit, c'est le néocolonialisme footballistique.
Ouais. Non, c'est un constat qui est un peu poussé, mais j'entends ce que dit Rémi et il a raison de dire que certains gros annonceurs sont venus se rattacher à la CAN. Si Total vient sur cette CAN, ça veut dire qu'il y a des enjeux financiers importants. Moi, ce qui me dérange plus, c'est pas que la CAF soit sous tutelle en quelque sorte financière de la FIFA, parce qu'on peut considérer que l'organisme majeur puisse justement aider les organismes un petit peu plus petits comme la CAF à se développer. Mais lorsque vous êtes sous tutelle, malheureusement, vous n'êtes plus décisionnaire de votre football. Et ça, c'est peut-être le côté un petit peu, le constat un petit peu ingrat qu'on peut faire, c'est qu'à un moment donné, puisque la FIFA va être soutien financier de la CAF ne va plus rien décider. Ça, c'est un problème. Que vous ayez, en fait, quelqu'un qui chapeaute un petit peu tout parce que la FIFA génère énormément d'argent grâce à toutes ces compétitions, ça ne me dérange pas, moi. Parce que c'est une logique, en fait, implacable. Vous prenez dans le monde de l'entreprise, et ben, vous avez des entreprises qui sont plus petites, qui sont aidées par des plus grandes, et à un moment donné, ils restent malgré tout décisionnaires. Ce qui n'est pas le cas de la CAF, et la Coupe d'Afrique des Nations est en danger. Qu'elle passe demain tous les 4 ans, bon, bah, on voit que sur toutes les autres compétitions, c'est aussi comme ça. Donc, ce ne sera pas la chose la plus grave. Mm-hmm. La chose la plus grave, c'est qu'à un moment donné, les compétitions que vous allez créer ailleurs, c'est-à-dire mondial des clubs, vont venir en fait annuler ces compétitions-là parce qu'on va partir du principe que ça génère 10 fois, 100 fois plus d'argent. Ça, c'est un constat ingrat du foot d'aujourd'hui et dans l'économie du football aujourd'hui, malheureusement, qui pourrait être très pervers pour la Coupe d'Afrique des Nations.
Il ne faut pas oublier quand même une chose. Ces dates-là étaient déjà retenues par la FIFA, a priori, pour la Coupe des Confédérations qui existait et qui a disparu. Il y a aussi un mondial des clubs aujourd'hui qui disparaît avec le nouveau mondial des clubs. Donc ça occupe des dates, ça en libère d'autres.
Oui, ça en libère d'autres, mais on parlait des filles tout à l'heure. Ce qui faisait mal à la Coupe d'Afrique des Nations lorsqu'elle était au mois de janvier, c'est que si vous aviez, par exemple, un Sénégal-Cameroun et qu'en même temps, vous aviez un Manchester City-Liverpool, et ben la plupart du temps, vous perdiez en audience parce que les gens allaient voir le match anglais ou le match français. Là, la chance qu'on a eue, c'est que pendant cette CAN, mine de rien, vous allumiez votre télé, il n'y avait pas d'autre foot que la CAN.
C'est vrai.
Donc c'était intéressant parce que vous regardiez un match de foot.
C'est pas tout à fait vrai. Il y avait la Coupe du Monde féminine.
Ça s'est arrêté à la fin, mais au début il y avait d'autres compétitions.
Non, mais à un moment donné on a eu malgré tout. Ça a été quand même malgré tout la compétition majeure.
À peine 2 semaines.
Dans le paysage footballistique.
Il y avait beaucoup d'autres compétitions, comme souvent d'ailleurs les années impaires.
Par exemple, qui pouvaient faire de l'ombre là.
Coupe du Monde des 20 ans.
Il y avait la Copa América,
la Gold Cup.
La Copa América, c'était un peu nuit.
Mais vous dites qu'il n'y avait que cette compétition. Non, c'est faux. C'est faux. Après, effectivement,
si
je peux m'exprimer, il y a eu deux éléments importants. C'est le premier, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations a été décalée d'une semaine, ce qui fait qu'elle a été beaucoup plus tard que les autres. Donc, effectivement, au moment de sa finale, il y avait rien d'autre, il n'y avait plus rien d'autre. Mais au début de la compétition, il y avait plein d'autres événements, à commencer par les derniers tours de la Coupe du Monde féminine qui était en France, mais aussi la Coupe du Monde des 20 ans qui s'arrêtait, mais aussi la Copa América qui commençait, mais aussi la Gold Cup. Donc sur d'autres continents, ça
jouait. Oui, mais c'est parce que les matchs ont été faibles que tu n'as pas regardé. Et les matchs ont été faibles, donc tu n'as pas regardé. Mais demain,
si,
tu aurais...
Si, moi, j'ai tout regardé. Mais si je peux finir,
les années impaires, il y a désormais embouteillage. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, tous les 4 ans, il y a la Coupe du Monde, et dans l'intervalle, il y a les Jeux Olympiques. Donc, toutes les fédérations et les organismes mondiaux qui organisent des compétitions se sont dit, puisqu'on peut plus venir sur les années paires, parce qu'il y a la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques et aussi l'Euro, c'est vrai, qui concentre pas mal d'attention, on va aller sur les années impaires. Donc, maintenant, il y a embouteillage sur les années impaires. Les championnats du monde d'athlétisme sont les années impaires, les championnats du monde de basket.
C'est toi qui milites, Xavier Barré.
Toutes les compétitions sont sur les années impaires.
De cette façon-là, c'est toi qui militais, c'est toi qui as milité justement aussi que la CAN soit déplacée en janvier. Maintenant tu milites
en janvier,
en juin, que ça quitte, que ce soit décalé de janvier à juin.
Tu la seule chose pour laquelle j'ai milité, c'est qu'effectivement qu'elle soit tous les 4 ans comme les autres.
Tu vas militer pour que ce soit après 4 ans. Après tu viendras militer que la CAN soit après 6 ans. Après tu vas militer que ce soit
mais
après
6 ans. Mais qu'est-ce que tu racontes? Après tu vas militer n'importe quoi. J'ai toujours dit effectivement que les compétitions continentales étant tous les 4 ans en Europe, en Asie, alors pas en Amérique du Sud pour d'autres raisons.
Mais,
eh bien, la CAN gagnerait, je le répète, ça effectivement, que la CAN gagnerait en créant l'événement en étant que tous les 4 ans. Voilà.
Vous n'êtes pas obligé.
On n'est pas obligé. Mais il ne faut pas pleurer après. Si la Coupe d'Afrique des Nations devient une Coupe d'Afrique, une compétition illisible. Elle a eu lieu en 2012, elle a eu lieu en 2013.
Mais,
c'était même tous les années. Mais non, ça ne va pas.
Ça ne vous concerne pas.
Ça
ne
va pas.
Laissez les Africains gérer leur pouvoir.
Ça ne va pas.
C'est pas possible.
La preuve, c'est que ça ne va pas, puisqu'on ne sait plus quand elle a eu lieu.
Le débat, sans noir sur le tableau, on a eu une finale aujourd'hui qui a quand même plébiscité le football africain avec l'Algérie et le Sénégal.
Et sur le niveau de football montré.
C'est déjà une bonne nouvelle de voir ces deux nations majeures être en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, ce qui prouve que malgré tout, cette compétition peut exister. Elle doit exister. Après, il faut peut-être la réformer, peut-être y trouver un meilleur aménagement, mais tout en prenant des décisions sans forcément avoir l'imposition d'un organisme comme la FIFA.
Voilà. Juste pour noter aussi que dans ce comité exécutif a été décidé le retour, alors évidemment ça a changé de nom, mais en gros de la récompense du prix du meilleur joueur africain local, parce que ça avait disparu et du coup évidemment eh bien ceux qui s'expriment à l'étranger volaient un petit peu la vedette, et là ils retrouveront un prix. Il y en aura donc plusieurs à la prochaine session, et ça devrait être en Égypte, on ne sait pas encore bien où, mais en Égypte au mois de janvier prochain.
Edward Ando, right on half time. Nothing that Gary Cahill could have done about that. But maybe this can be Chelsea's day, because Manchester City could be 2, 3, 4 goals up maybe. Comes the big bounce here. Diego Costa 1-1. There's your sucker punch. And now again, Costa's rolled off and Mendy's having a nightmare. And Willian's onside.
Fantastic counter play by Chelsea.
Turned it around against Tottenham. And they've done it again at Man City.
Le match au sommet du championnat d'Angleterre, ce sera samedi à 18h30 heure de Paris, 17h30 en temps universel sur la pelouse de l'Emirates où les champions en titre, c'est sur l'Etihad Stadium, pardon, où les champions en titre à la peine hein, en championnat, on va y venir à 9 points des Reds de Liverpool, recevront Chelsea, c'est donc Manchester City, Chelsea, des Blues, troisième, surprenant d'ailleurs, troisième avec un seul point d'avance. Mais surtout, les hommes de Guardiola entament une série... on va dire compliqué après avoir été battu très nettement à Anfield lors du dernier match de championnat anglais, puisque c'était ce fameux Liverpool-Manchester City. Avant Noël, en tout cas, beaucoup de matchs, en plus de la Ligue des Champions, il y aura Manchester United, Arsenal et Leicester. Les Citizens, Xavier Barré, est-ce qu'ils sont dans un état un peu épuisé, dirais-je, peut-être par ces années Guardiola, on connaît l'intensité de leur jeu. Est-ce que surtout, peut-être qu'ils surprennent moins l'adversaire ?
Alors, il y a effectivement cet élément qui fait qu'on connaît maintenant le jeu de Manchester City.
Ils ont déjà trois défaites quand même sur 13 journées.
Et
hein.
que les adversaires effectivement s'adaptent. Mais ce qui les pénalise surtout en cet automne, en ce début de saison, c'est les blessures. Parce qu'ils sont quand même privés de Leroy Sané, qui est un de leurs attaquants vedettes. D'Emeric Laporte, qui était le pilier de la défense. Ah. Si Rémy Nguono me laisse finir, je vais pouvoir finir. Parce que,
non seulement il parle pour moi, mais en plus,
il me laisse pas finir. Donc, ils sont privés de Leroy Sané, d'Emeric Laporte, qui est quand même le pilier du système Guardiola depuis qu'il est arrivé, hein, en défense, dans une défense rajeunie, et, accessoirement de Benjamin Mendy, qui a joué que trois matchs de championnat depuis le début de saison.
Voire Ederson aussi, qui a manqué quelques matchs.
Voilà, qui est le gardien brésilien qui n'a pas été remplacé très avantageusement par Claudio Bravo, le vétéran chilien. Donc, c'est un handicap très important pour Manchester City parce qu'on sait que Pep Guardiola, lui, n'aime pas les effectifs pléthoriques. Il préfère travailler avec un nombre réduit de joueurs. Et donc,
il a quand même un effectif assez étoffé.
Il a un bel effectif, mais il n'a pas un effectif en nombre aussi riche que les autres. Et d'ailleurs, si on regarde ce qui s'est passé depuis cet automne, je vois, en championnat, il a utilisé 22 joueurs. C'est-à-dire moins que Tottenham, Manchester United et Arsenal. Je parle du championnat. Autant que Chelsea, un petit peu moins que Liverpool, qui, c'est vrai, s'appuie sur un groupe beaucoup plus expérimenté. Donc, il y a ce gros problème des absents qui pose des problèmes à Pep Guardiola.
Habib, Manchester City est quatrième. Alors, mm-hmm. bon, certes, à un point des deuxièmes et troisièmes, parce qu'il y a beaucoup d'ex-aequo, mais ils sont déjà loin des Reds, même s'ils ont gagné les deux derniers championnats. Est-ce que vous les voyez toujours aussi forts?
Non, cette année, je les vois moins forts. Alors, ils marquent toujours autant de buts, puisque c'est la meilleure attaque de ce championnat, si je ne me trompe pas, avec déjà 35 buts. Par contre, là où je rejoins Xavier, c'est sur les absents. Une défense, Fernandinho, Otamendi, c'est pas possible à ce niveau-là. Fernandinho, on l'a vu à la peine, c'est un milieu de terrain, on l'a vu en grande, grande difficulté dans tous les matchs qu'il a eu à jouer défensivement. Mais malgré tout, je trouve que Pep Guardiola a fait quelques erreurs de management. Il avait Stones, par exemple, à sa disposition. Il ne l'a pas fait jouer. Il a préféré mettre Fernandinho. Donc ça, c'est un choix d'entraîneur coupable. Parce que Stones reste quand même le titulaire au poste, normalement. Il a été acheté 50 millions. Parce que moi, j'ai très peu de compassion. Et pourtant, Dieu sait que je suis admirateur de Guardiola. Mais j'ai très peu de compassion pour les entraîneurs qui dépensent 300 millions par an. Et qui ensuite vont se plaindre des absents ou de l'effectif restreint. Tourelle l'a fait. Guardiola le fait. Quand je vois ce que fait Klopp avec cette équipe de Liverpool, il a eu la chance de ne pas avoir de blessés majeurs, mais malgré tout, il ne s'est jamais plaint de l'effectif, il n'a pas recruté. Aujourd'hui, il est premier en première ligue avec 9 points d'avance.
Il a dû faire souvent sans Mané ou sans Salah.
Ça lui est arrivé, hein. Mais c'est surtout qu'il a décidé de ne pas recruter. Mmh. Et on aurait pu lui en vouloir, parce qu'on pourrait considérer aujourd'hui que s'il n'était pas bien en championnat, les gens auraient dit, mais attendez, vous êtes champion d'Europe, vous avez fait une finale de championnat d'Europe l'année dernière et vous ne recrutez pas. Il a préféré ne pas recruter. Guardiola a recruté, il a fait encore venir des joueurs à Manchester City. C'est quelqu'un qui dépense énormément d'argent. Moi, je suis admiratif de ce qu'il fait avec cette équipe de City, parce que quand on la voit jouer, parfois, on est en train de se dire, c'est un football qui est hors norme. Mais je ne peux pas le plaindre lorsqu'il décide de mettre Fernandinho à la place de Stones, Fernandinho qui est un milieu de terrain, et qu'il voyage à Anfield, parce que là, il est en difficulté, et c'est tout à fait logique. Et ce choix d'entraîneur est discutable quand il met Fernandinho. Donc, aujourd'hui, je pense que City, au vu de ce qu'on voit aujourd'hui en Première Ligue, avec les équipes, City, pour l'instant, dans le championnat, est à sa place. Moi, quand je vois Liverpool, c'est bien au-dessus. Quand je vois Chelsea, en ce moment, c'est au-dessus de City en termes d'efficacité. Pas de beauté de jeu, c'est qu'à un moment donné, on doit globaliser de ce qu'on voit de City. Et il y a, pour moi, beaucoup de carences dans le jeu de Guardiola actuellement. On n'est qu'au mois de novembre, il faut attendre. Hein. On sait qu'au mois de mars, c'est plus important, mais aujourd'hui, c'est en difficulté.
Chelsea, avec ce alors pas jeune entraîneur, dans le sens où c'est pas forcément quelqu'un de très jeune, mais c'est l'ancien joueur, évidemment, Frank Lampard, et surtout jeune entraîneur. On le voit sur les écrans, si vous nous regardez en Facebook Live, c'est Frank Lampard, bien sûr, et qui a si bien commencé la saison. Rémy, Manchester City est-il favori de ce match face aux Blues?
D'abord, je voulais applaudir Habib Bey pour son analyse et son objectivité. Je crois que même s'il ne boit pas de la bière, nous allons nous couper un verre juste à la sortie.
Un verre d'eau alors.
Alors pour ceux qui aujourd'hui viennent nous dire que le Roi Sané est le joueur phare de Manchester City, je dis, mais est-ce que vous avez vu quand il était titulaire? Et d'ailleurs, il devait être vendu au Bayern. On ne peut pas vendre son meilleur joueur. Donc, il n'était même pas. C'est-à-dire que lorsque vous regardez son temps de jeu, il a eu le temps de jeu le plus réduit de Manchester City. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il refuse de prolonger. Il dit qu'il veut partir parce qu'il ne se sent pas utile. Vous pouvez aujourd'hui me dire tout ce que vous voulez. Toujours est-il que quand Pep Guardiola est arrivé, Manchester City était deuxième derrière le Chelsea de Mourinho, et ils avaient bien évidemment qui, ils avaient déjà un type comme Agüero. Vous avez Agüero. Vous avez actuellement quelqu'un comme Sterling qui avait déjà été recruté à 63 millions. Sans pour autant oublier, quand on me parle de défense, Pep Guardiola a tué tous les défenseurs parce qu'il a dépensé plus que n'importe quel entraîneur sur terre sur la défense. Rappelez-vous qu'il a recruté Mangala à 53 millions. Où se trouve Mangala? Donc, comme il parlait justement de Stones aujourd'hui, comme Habib Bey le dit, vous ne pouvez pas recruter des gens à 50 millions et Mangala, ne pas les faire pas jouer. Lui, hein. Donc, à une certaine période aujourd'hui, non. J'ai dit, ne me dites pas
d'autres,
que...
mais pas Mangala.
Je vais vous dire une chose. Que ce soit Bayern, c'est... lorsque Pep Guardiola est arrivé et que Bayern avait tout raflé, eh bien, on a vu les gens qui étaient au milieu de terrain devenir des défenseurs, les gens qui étaient des défenseurs devenir des attaquants, de telle sorte que le capitaine même du Bayern s'était retrouvé presque en numéro 9, voire numéro 8. Donc, Pep Guardiola aime faire déplacer les joueurs de n'importe quelle façon. Résultat des courses, il n'a pas gagné la Ligue des Champions au niveau
Il est allé en demi-finale avec City.
Ce qu'il fait avec City, j'ai dit, c'est regrettable parce que aujourd'hui, City n'est pas convaincant, et je vais dire.
Ils ont été deux fois champions.
Il fait n'importe quoi. Oui,
il n'est pas été champion cinq fois sur les six derniers.
C'est ce que vous allez dire.
Deux fois sur trois.
Il a été champion cinq fois sur les six derniers championnats.
Mais si vous le dites.
Mais il fait n'importe quoi.
Mais si vous le dites. Si vous le dites. Sur le nombre de championnats remportés, dans ce cas, Mourinho est le meilleur, dans la mesure où il a remporté.
Il en a remporté moins.
Sur les six derniers championnats, il en a remporté combien?
Dans tous les pays, Mourinho, lui, a remporté championnat zéro.
J'ai attendu que tu parles et je corrige vis-à-vis de nos téléspectateurs parce qu'il a dit que Pep Guardiola avait commencé par être deuxième auditeurs du championnat, nos auditeurs et nos internautes, qu'il avait commencé par être deuxième derrière le Chelsea de Mourinho, non, mais pas derrière le Chelsea de Mourinho, comme tu l'as dit, on pourra repasser la bande, mais derrière le Chelsea d'Antonio Conte.
La Ligue des Champions ne peut pas être le juge de paix. Sinon, ça veut dire qu'il y a énormément d'entraîneurs aujourd'hui qui ne réussissent pas, puisque c'est Zidane qui a gagné les trois dernières et c'est Jürgen Klopp qui a gagné la dernière. Donc, je pense que Guardiola, malgré tout, a marqué de son empreinte tous les clubs dans lesquels il est allé. Après, il faut aussi parler de ses erreurs de management en ce moment. Il y en a, il les a reconnues. Mm-hmm. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, City n'est pas très très loin non plus. Loin de Liverpool, parce que 9 points, c'est beaucoup. Mais ils sont à la lutte avec Chelsea. Donc, à partir de là, ils sont à la lutte avec Leicester, qui est un étrange troisième ou deuxième, je crois, de cette première ligue.
Il y a beaucoup de ceux qui nous suivent sur Facebook.
Souligne
la haine bien connue de Rémi envers Guardiola. Donc, ça enlève un petit peu de crédibilité à ses propos.
En tout cas, les statistiques, Rémi, sont pour vous, puisque 23 des 26 derniers matchs entre ces deux équipes ont été remportés par Manchester City. Donc, ça veut dire quand même que c'est à chaque fois Pep Guardiola qui est plus fort.
Il y a qu'un entraîneur qui a mis en échec Pep Guardiola, c'est Jürgen Klopp.
Ouais.
Il y a aucun entraîneur qui a fait mieux que Jürgen Klopp face à Pep Guardiola. Sinon, tous les autres ont... Les Wenger, Mourinho aussi, a perdu plus face à Guardiola que par exemple Jürgen Klopp. Récent pour Jürgen Klopp.
On peut souligner quand même que Lampard fait un superbe travail.
Exactement.
Il l'avait déjà fait la plus régulière ces dernières semaines, et avec une équipe où il n'a pas pu recruter, où il a perdu Eden Hazard. Quand même,
avec un vrai pari sur la jeunesse, parce que mine de rien, Tammy Abraham, Mason Mount sont des jeunes joueurs qu'il a eu d'ailleurs, un qui était à Aston Villa. Tammy Abraham, Mason Mount qu'il avait à Derby County, qu'il a fait vraiment grandir, qui aujourd'hui est un élément majeur de cette équipe de Chelsea. Il a pas eu N'Golo Kanté qui a été blessé pendant assez longtemps. Défense, lorsqu'on la regarde, Christensen avec Tomori, c'est pas non plus, c'est un jeune joueur aussi, donc je trouve qu'il fait du très très bon travail avec cette équipe de Chelsea.
Alors ça sera le match à 18h30, mais en ouverture de cette 13e journée de Premier League, à 13h30, il y aura un certain West Ham Tottenham. José Mourinho, ça sera son premier match sur le banc des Spurs. L'entraîneur portugais jouera donc à Londres au stade olympique des Hammers. Rémi, je vous vois sourire. Vous êtes ravi de revoir José Mourinho sur un banc?
Mais c'est le monde du foot qui est ravi. C'est le seul entraîneur qui vient, qui prend des équipes en crise, qui sait rebondir toujours derrière et qui a toujours prouvé quelque chose. Donc, je devrais quand même dire que lorsque vous voyez ce José Mourinho-là, c'est quelqu'un qui sait bel et bien revenir guérir des grands corps malades. Je dois quand même rappeler que quand José Mourinho prend un truc comme le FC Porto, ce n'était pas magnifique aussi que ça, mais le FC Porto remporte quand même l'UEFA, remporte quand même la Ligue des Champions. Je vais quand même rappeler que quand José Mourinho arrive à Chelsea, eh bien, il fait quand même deux fois champion. Il est champion de Première Ligue. Je devrais quand même dire que, et quand il est même limogé de Chelsea, eh bien, José Mourinho va à l'Inter, où il réalise un triplé historique en remportant tout, en réalisant tout. Oui, oui, oui.
Justement, Rémi, écoutons-le, José Mourinho, parce que c'est vrai que on parle de tous les clubs auxquels il a appartenu. À un certain moment, il avait même dit qu'il aimait tellement Chelsea qu'à Londres, il n'entraînerait aucun autre club. Et puis finalement, eh bien, les temps font qu'il l'a quand même entraîné. Écoutons ses explications. C'était en conférence de presse, sa première conférence de presse hier.
Les gens peuvent me voir comme Monsieur Inter, Monsieur Real Madrid, Monsieur Porto. En fait, je suis Monsieur Club. Quand j'arrive dans un club, je porte le pyjama de ce club et je dors dedans. Je travaille et je dors. Je passe du costume au pyjama. Parfois, je peux même les confondre. Je suis un homme de club, mais un homme de beaucoup de clubs.
Voilà. On a entendu José Mourinho.
Ce qui est rassurant, c'est
qu'il change pas.
Non, mais il va dormir dans son pyjama et a priori dans son lit. Parce qu'il y a quelque chose que nos auditeurs et les internautes ne savent peut-être pas, c'est quand il était à Manchester, il habitait à l'hôtel et qu'il a d'ailleurs laissé une sacrée note d'hôtel parce que sa famille est restée à Londres. Donc, c'est quand même une bonne chose que finalement.
Il sera en pyjama dans son propre lit. Il pourrait être en pyjama dans son lit et
non pas à l'hôtel. Ça coûtera peut-être moins cher à Tottenham.
En tout cas, ce nouveau José Mourinho, est-ce qu'on peut dire que c'est un José Mourinho nouveau style?
Non, la base va rester, mais moi je suis convaincu, et je l'avais dit, je suis convaincu qu'il va revenir avec une philosophie différente. Je pense qu'il a eu, il a pas eu forcément des énormes échecs,
prétend.
Mais parce que moi là où je rejoins Rémi, on est souvent en désaccord. Moi j'ai pas aimé le jeu proposé par Mourinho à Manchester United, mais les gens oublient qu'il est arrivé et qu'il a gagné quand même l'Europa League. Même si aujourd'hui on dévalorise l'Europa League, il est arrivé dans un club où il a gagné des trophées et partout où il est passé, il a gagné. Et mine de rien, même si on parle souvent au passé. Gagner deux Ligues des Champions avec deux clubs différents en prenant une équipe de Porto, moi je l'ai joué parce qu'on était dans le même groupe, c'était pas une équipe de Porto que tout le monde voyait comme potentiel vainqueur de la Ligue des Champions. En plus à cette époque-là, il y avait les Galactiques. Mais pour revenir à Mourinho, je pense qu'il va revenir pas forcément différent, ça sera un manager avec la même base, mais par contre, je pense qu'il va avoir il va aborder le football différemment. Il pourra pas être ce manager où il va préserver comme il l'a fait à Manchester United sans forcément proposer de jeu. Je crois qu'il va utiliser les forces de cette équipe de Tottenham et il va essayer d'être un manager avec un petit peu plus de spectacle. Ça ne veut pas dire qu'il va changer intrinsèquement. Sur les gros matchs, il va sûrement essayer de garder ce 0-0, aller chercher ce petit but qui lui va bien, savoir défendre. Mais il a été tellement critiqué sur cet aspect, c'est-à-dire qu'il avait perdu un petit peu ce qui était sa classe. Parce que n'oubliez pas, c'est que quand il va au Real, il finit avec plus de 100 points. Enfin, il est champion avec 100 points. Il marque, je crois, 124 buts, ce qui était un record. 127 buts, qui était un record historique au sein du Real. Lorsqu'il est allé à l'Inter,
c'est une équipe qui marquait. Il a mis le vestiaire à feu et à sang.
Ouais. Mais malgré tout, il a fait du travail assez exceptionnel. Quand il est à l'Inter, l'Inter marque beaucoup. Lorsqu'il est à Porto, Porto marque beaucoup. Et c'est vrai que quand il est arrivé à Manchester, derrière, il a commencé à être sur ce 1-0. Il était moins spectaculaire. Moi, je suis content de le voir revenir en Première Ligue pour plein de raisons. Parce qu'il va y avoir Jürgen Klopp, José Mourinho. Et encore une fois, les conférences de presse à l'image de celle-ci étaient extraordinaires.
Il y a quand même un élément qu'on n'évoque pas, ou très peu. C'est que c'est la première fois dans sa carrière, en tout cas dans un grand club européen, qu'il arrive comme pompier. Et c'est quand même une différence considérable par rapport aux aventures antérieures où il est arrivé en début de saison. Que ce soit à l'Inter, que ce soit au Real, que ce soit les deux fois à Chelsea. Et il est arrivé en début de saison, il a fait le recrutement. Donc il a fait venir les joueurs qu'il voulait. Là, il doit récupérer un effectif qui est pas du tout le sien. C'est pas lui qui l'a constitué. Il y a même un certain nombre de joueurs qui sont en fin de contrat. Et il va devoir faire avec. Et effectivement, là, on va voir ce qu'il est capable de construire avec une équipe qui n'est pas du tout la sienne. C'est vrai que c'est très intéressant comme expérience.
Alors justement, il est en train de constituer une équipe autour de lui et ça ne vous aura pas échappé. Il a, eh bien, cherché des collaborateurs un peu partout et notamment, eh bien, du côté du LOSC où on savait que de temps en temps, il apparaissait dans le stade. Pierre Mauroy, on pensait que c'était pour la beauté du football déployé par les Dogs. Pas du tout. Il a pris deux collaborateurs de Christophe Galtier. Écoutons comment l'entraîneur du LOSC a réagi hier à ce transfert à ses collaborateurs transfuges.
C'est très classe. J'étais énervé, agacé, bien évidemment. Parce que, je répète encore une fois, le timing n'est pas bon. Chacun analysera la manière de faire les choses. Est-ce que c'est de bonne chose ou pas de bonne chose? Est-ce que c'est bien fait ou pas bien fait? Bon, comme ça. Je vous répète encore une fois, le plus important, c'est que je suis d'accord, et j'insiste sur ça, je suis d'accord sur la décision qu'a pris mon président. Chacun a sa manière, chacun a sa manière de faire les choses.
Alejandro, évidemment, quand on est au LOSC à Lille et qu'on est tenté par, on est appelé à Tottenham, c'est difficile de résister en fait.
Oui, c'est compliqué, mais on peut comprendre la frustration de Christophe Galtier. C'est quand même difficile et la manière dont Mourinho est allé puiser dans ses réserves est un peu cavalière, c'est le moins qu'on puisse dire. Même si Mourinho a besoin de constituer son staff, c'est quand même difficile.
En tout cas, les craintes qui étaient autour de Luis Ocampos, avec qui il a déjà travaillé au Real Madrid, le directeur sportif, là, on a l'impression que Gérard Lopez, le président de Lille, essaye de le bloquer.
Pour l'instant.
Il n'est pas salarié de Lille. Campos est indépendant. Il travaille avec Lille, mais il n'a pas de contrat avec le club de Lille. C'est quelque chose d'indépendant. Il a une propre société. Moi, ce qui m'ennuie, c'est pas la démarche de Mourinho, parce que lorsque vous êtes entraîneur et vous arrivez dans un club, vous allez aller chercher les plus grandes compétences autour de vous, peu importe où ils sont, et vous allez tout faire pour les avoir. Ce qui me dérange, c'est la législation. Comment peut-on permettre aujourd'hui, à l'intérieur d'un club, qu'un entraîneur adjoint puisse comme ça partir, comme
alors, s'il était du soir au matin,
bah, comme s'il était aujourd'hui, ouais. Sans être péjoratif, mais comme s'il était celui qui appuie sur le bouton de l'ascenseur. Bon, bah, je m'en vais. C'est pas possible. Aujourd'hui, vous êtes un staff. Vous savez à quel point c'est difficile de gérer une équipe. Vous savez à quel point il est important pour un entraîneur d'avoir un staff qui lui est lié et qu'on puisse aujourd'hui débaucher n'importe quelle personne autour d'un entraîneur comme ça en l'espace de 24 heures. Pour moi, c'est pas normal. Un adjoint qui doit être débauché par Tottenham. Vous voulez l'adjoint tout de suite? Pas de problème. Ça coûte tant. C'est normal, ça devrait être comme ça. Ça devrait pas être pour Galtier. Qu'est-ce qu'il fait Galtier aujourd'hui?
Surtout qu'il est du
il a plus d'analyse vidéo et il a plus de
d'entraîneur des gardiens.
Mmh. Et il doit préparer le match du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est incohérent.
Exactement,
c'est
il joue incohérent. Ce soir.
Mais vous avez senti. On veut pas du tout à Mourinho. Il a raison. Il va chercher la compétence là où elle est. On lui permet, donc il le fait.
Vous sentez en Habib la passion du futur entraîneur.
C'est pour ça que je pense que votre staff doit vous être lié. Et ça, j'espère
il,
pouvoir
il
le faire
lié
un jour.
À Radio Foot, vous avez remarqué.
Lié contractuellement.
Mais comment vous pouvez faire un contrat qui empêche les gens de partir? On pourrait imaginer qu'il y a un préavis, mais au bout d'un moment,
non, une indemnité de transfert comme pour un joueur.
Mais ça arrive maintenant pour les entraîneurs, ça va peut-être arriver maintenant pour les adjoints aussi.
Avant qu'on aille à notre session carton, on avait envie de s'arrêter sur un petit anniversaire qui a été marqué cette semaine. Et regardez, c'est un document d'archives. Alors pour ceux qui nous suivent, et on bat des records aujourd'hui sur Facebook Live, donc n'hésitez pas à vous brancher. Ce document d'archives qui a 50 ans et demi-siècle, donc c'est l'histoire du football, c'est en noir et blanc. Camino Pelé, a poco. C'était le millième but de Pelé. Pelé qui avait marqué donc le 19 novembre 1969 et l'histoire retient que c'était même paraît-il à 23h23. C'était dans le stade du Maracana, un stade qui était plein, 65 000 personnes. Le commentateur, on l'entend durant ce document d'archives, dit à un moment très précis c'est dommage que ce soit sur un penalty parce que ça aurait été bien que ce soit un but dans le style de Pelé. Ce qu'on sait Xavier, c'est qu'en fait on a dit que c'était le millième but de Pelé,
ouais, en fait,
et c'était peut-être pas
800e. Quelque chose comme
757
ça,
ouais. Selon les statistiques officieuses.
Oui, on a un peu enjolivé la légende du roi là.
Non, c'est-à-dire qu'il comptait tous les buts des matchs amicaux. Il en a sûrement marqué peut-être même plus de 1000.
Oui, ça même dans ceux qu'il avait marqué à 3 ans sur.
Voilà, c'est ça.
En fait, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait moins de matchs qu'aujourd'hui. On évoquait le calendrier international au début.
Il en a quand même marqué 77. Hein, 77 pour la sélection du Brésil, ce qui est énorme pour l'époque.
Ce qui est formidable, qui a longtemps été le record d'ailleurs. Mm-hmm. Non, mais c'était un joueur extraordinaire. Et c'est vrai que ce millième, cet anniversaire-là, il avait, je me souviens, on avait fait un article dans France Football il y a quelques années pour le pour le raconter. Et donc, il y avait toute une mise en scène. Le penalty était litigieux. D'ailleurs, tout le monde attendait qu'il marque parce que tout avait été programmé pour ça. Et puis, il marquait pas. Donc, l'arbitre a fini par siffler un penalty. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que, j'allais dire, Pelé n'avait pas besoin de cet anniversaire-là pour être le plus grand joueur de l'histoire du football.
Est-ce qu'il va être rattrapé à notre époque avec la multiplication des compétitions, comme on disait, Habib?
Je sais pas.
Il y en a qui sont pas très loin, c'est Cristiano et...
Mais il est déjà à 700, Cristiano.
Ouais.
Ouais, mais bon, le problème, c'est que comme ça a été enjolivé, on peut pas considérer.
C'est peut-être compliqué, le millième.
Peut-être qu'un jour.
Romario aussi avait dit qu'il en avait marqué 1000, en fait, c'est pareil. Ouais,
moi, ça me dérange pas, parce que ce sont tels joueurs que la légende fait que justement, c'est un bel anniversaire, même s'il a pas existé, on a envie de le vivre. C'est des joueurs qui ont marqué leur temps. Comme aujourd'hui Messi, comme Ronaldo, comme Maradona, je crois que c'est un bel anniversaire, c'est un beau clin d'œil, je trouve, parce que ça reste le roi, quoi. Même si je pense que les gens disent aujourd'hui c'est le plus grand footballeur de l'histoire du football, il faut recontextualiser, c'est-à-dire pour les gens qui ont vécu cette époque. Maintenant, on sait pas, peut-être que Pelé aujourd'hui serait un joueur encore plus important que Ronaldo et Messi, on ne le sait pas, personne peut dire aujourd'hui si l'évolution de Pelé aurait été la même qu'un Messi ou Ronaldo. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été extraordinaire pour les gens qui l'ont vu jouer. Moi, mon papa m'a parlé de Pelé comme si c'était
c'est un peu chaque grand joueur à chaque génération.
Alors moi, j'ai un âge qui me permet de me souvenir de ce millième but, je l'avais suivi, et effectivement à l'époque déjà beaucoup on ironisait un petit peu sur ce millième but qui était un peu artificiel, mais c'était quand même un joueur exceptionnel, ça personne ne peut le nier.
Je crois que bien qu'étant fan de Cristiano Ronaldo et bien que parfois guettant Messi d'un œil, Pelé est au-dessus, très au-dessus.
Vous guettez Pelé aussi. Bon,
beaucoup de gens disent que peut-être dans le contexte, mais le contexte de l'époque, il faut savoir déjà que Pelé, à l'âge de 28 ans, il a déjà totalement des chevilles qui sont labourées par des bouchers. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ils sont protégés. Donc aujourd'hui, quand je vois que ce monsieur est en Coupe du Monde et ses 12 buts et 12 buts importants, et quand il revient 2 ans après la sélection, il a déjà 30 ans, eh bien, il arrive à la Coupe du Monde de 70, il fait encore des miracles. Moi, j'ai dit, Pelé, c'est vraiment du grand Pelé, et que jusqu'à présent, je ne vois pas de comparaison. Et même à l'époque, quand il jouait au Brésil, c'était un championnat très, très élevé, peut-être plus élevé que la Liga.
Session carton, tout de suite et rapidement.
Carton jaune.
Il y a un carton, là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire. Rien à dire.
Le carton de Radio Foot International, très rapidement, mais il a une couleur sang et or.
C'est fini. Et champion de France. Lance champion de France.
Lance champion de France, c'était en 1998 et c'était Daniel Leclerc qui était gentiment surnommé le druide, qui était alors l'entraîneur de cette équipe du RC Lens. RC Lens champion de France à l'époque. Aujourd'hui, Daniel Leclerc est décédé, il avait 70 ans. Habib, votre carton.
Je vais pas être original, c'était la même chose. J'ai commencé le football en 98, l'année où le RC Lens est justement champion avec Daniel Leclerc. Donc à partir de là, petit hommage à lui. Et vraiment, parce que c'est quelqu'un qui a servi le football. Et si aujourd'hui j'ai aussi aimé le RC Lens, et si un jour j'ai l'occasion d'entraîner un club, j'aimerais vraiment commencer par un projet comme celui-ci. Donc voilà, petite dédicace à Daniel Leclerc.
Xavier Barré.
Ben moi aussi j'allais donner un carton sang et or pour Daniel Leclerc. Alors je vais me défouler un peu, je vais donner un carton rouge à Daniel Levy, le président de Tottenham. On en a peu parlé un petit peu quand même dans l'émission, mais choisir José Mourinho pour entraîner Tottenham alors que Pochettino avait créé une identité de jeu, pour moi c'est vraiment une trahison. Je suis très déçu par ce choix.
Non, c'est du nostalgique.
Et on verra ce que ça donne, mais j'ai gros doute sur sa capacité.
Le monde du foot est comme ça.
Rémi, 10 secondes.
Ah mais bon, voilà, pour 10 secondes Ahmed Moussa qui m'a écrit une box, ouais. Ça c'est ma Facebook.
C'est lui,
ma
page, c'est lui Facebook, qui a un carton.
Ma page Facebook ne revenant que mercredi. Eh bien, il m'a demandé de donner un carton vert à Ahmed Moussa qui a décidé de parrainer 100 étudiants, dont un geste très salutaire par rapport à d'autres.
Alejandro Valente, vous nous le donnerez la semaine prochaine. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci à tous de nous avoir suivis sur le Facebook, de nous avoir suivis sur les ondes. Vous pouvez aussi nous réécouter à la rediffusion. Merci à tous. À lundi.